Champy Radio.
La radio
du collège
Les Rossius.
Bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sur Champy Radio. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'interviewer notre principale adjointe, Madame Dupouille. Mais avant, des bonbons ou un sort ? Gabriel et moi-même allons vous parler d'Halloween.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la fête la plus funeste de l'année.
Halloween. Cette fête a été créée non pas par une personne, mais par un peuple, les Celtes, qui célébraient la fête du Samhain, qui signifiait pour eux la fin de l'été et le début de l'hiver. Elle se fêtait entre fin octobre et début novembre. Cette fête a des racines historiques, puisqu'elle se célèbre depuis environ 2500 ans. C'est à partir du 8e siècle que le nom se rapproche le plus d'Halloween, car la fête de la Toussaint, alors nommée All Hallows Day, est devenue All Hallows Eve, littéralement le réveillon de Toussaint qui se transformera plus tard en Halloween.
Dans la croyance commune, Halloween est une fête commerciale créée par les Américains. Mais vous savez maintenant que c'est faux. Mais s'ils fêtent autant, c'est parce qu'au début, les jeunes vandalisaient tellement les façades que le gouvernement américain a décidé de rendre la fête moins sanglante, d'où le court-métrage Disney Trick or Treat.
La petite rubrique des blagues, pas tout le temps bonne. Halloween, ici Trouille. Un fantôme dit à un autre fantôme. Et dis donc, il y a un mouchoir qui traîne derrière toi. C'est pas un mouchoir, c'est mon fils.
Et, mais vous ne vous êtes pas posé une question ? Comment cela a-t-il dérivé aujourd'hui en citrouille, sculptée pour faire peur ?
Au départ, ce n'était pas la citrouille qui était utilisée, mais le navet. Quand Halloween a été important en Amérique, les citrouilles se trouvaient plus facilement que les navets, alors c'est devenu un signe distinctif d'Halloween.
Et pour les déguisements, comment on en est arrivé là ? Les Celtes portaient des déguisements qui faisaient peur, pour éloigner les mauvais esprits.
À la prochaine !
Champy Radio !
Champy Radio !
La radio
du collège
Les Rossius.
Merci Gabriel pour cette terrifiante chronique. Maintenant, prenez votre stock de bonbons parce que Héloïse, Laureline et Anouk vont nous parler des macaremoines, ce mystérieux oiseau.
Nous allons vous parler des macaremoines.
Pour nous, c'est la rentrée des classes, alors que pour eux, c'est la période de migration.
Ils étaient sur les côtes en Bretagne du mois d'avril au mois d'août.
Ce qui correspond à leur période de reproduction. Les macaremoines sont des oiseaux marins et migrateurs. Ils vivent dans l'océan Atlantique Nord.
Y compris dans les zones arctiques. Sauf pendant les périodes de reproduction où ils sont contraints de rejoindre la terre ferme où ils nichent sur les pentes enherbées.
Sur les îles ou sur les falaises. Les macaremoines habitent la Grande-Bretagne, l'Islande, la Norvège, le Groenland, le Canada, le nord de la France et les petites îles de l'océan Atlantique. Les macaremoines se nourrissent de crustacés et de petits poissons. Dès que le macaremoine en attrape un,
il l'avale tout entier pour éviter que d'autres animaux ne s'en emparent.
Les oisillons réclament de la nourriture en piaillant.
En hiver, le bec du macaremoine est gris, mais à partir du printemps, il est d'un orange éclatant.
Son corps est noir et son ventre est blanc.
Ils ont des pattes postérieures palmées comme les pingouins.
C'est un oiseau aquatique aux ailes très courtes.
Les macareux émettent généralement à travers le sol des grognements bruyants évoquant le bruit étouffé d'une scie à chaîne.
Ces animaux sont surnommés des clowns des mers. Ils sont très ridicules au vol, comme sur la terre ferme.
Alors que dans l'eau, ils sont majestueux. En France, les macaremoines sont en danger critique.
Selon la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale de la conservation de la nature.
Ce sont des oiseaux qui souffrent de la perte de leur habitat.
Du manque de ressources alimentaires, qui est dû à la pollution de l'eau.
L'histoire des macareux.
L'histoire du massacre des macaremoines qui a lieu sur les îles de la mer du Nord
est tragique et met en lumière l'impact sur les actions humaines sur la faune.
Au 19e siècle, les macaremoines étaient très nombreux sur certaines îles, notamment celles du Canada et de l'Islande. Leur population attirait de nombreux chasseurs et pêcheurs qui voyaient en eux une source de nourriture et de profit.
Les macareux étaient chassés pour leur viande, leurs plumes et leurs huiles qui étaient très prisées.
Les événements tragiques se sont intensifiés dans les années 1800 à cause des chemins de fer de l'Ouest qui proposaient même des parties de chasse aux macareux.
Des milliers de macaremoines ont été abattus, souvent dans des conditions cruelles.
Les chasseurs prenaient les œufs et les jeunes
oisillons, perturbant gravement leur population locale.
Ce massacre a été motivé par la demande croissante de produits dérivés des macareux, ce qui a conduit à une exploitation incontrôlée de ces oiseaux. Mais grâce à la Ligue pour la protection des oiseaux, ou LPO, cette espèce est devenue protégée.
Sans elle, les macaremoines seraient sûrement plus en France.
On espère que l'article
vous aura plu.
Et merci de nous avoir écoutés.
Chambi Radio,
la radio
du
collège
Les Roussillous. Merci les filles pour cette chronique. Faites maintenant place au moment tant attendu. Et oui, je parle bien de l'interview de Madame Dupouille.
Bonjour, nous allons vous poser quelques questions. Pour commencer, pourquoi avoir voulu faire ce métier ?
Déjà bonjour à tous, hein. Donc j'ai voulu faire ce métier parce que j'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Alors pas les tout jeunes, mais les jeunes ados, et pouvoir construire avec eux un parcours d'avenir, parce que je pense que l'école, c'est la construction d'un citoyen, et c'est aussi construire un avenir pour les jeunes, un futur métier, des ambitions, donc c'est vraiment cela qui m'intéresse dans ce métier.
Qu'est-ce que ça fait d'être nouvelle dans un collège ?
Alors le fait d'être nouvelle dans un collège, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, puisque dans mon précédent établissement, j'étais restée 8 ans, et c'est un peu déstabilisant au départ, parce qu'on n'a plus aucun repère, on ne sait pas trop vers qui se tourner quand on a besoin de quelque chose, mais en même temps ça a un côté un peu inspirant parce que du coup on va rechercher un peu dans ses ressources une envie de créer de nouvelles choses, de construire de nouveaux repères, et on découvre en fait plein de choses. Donc du coup je trouve que c'est enrichissant d'être nouvelle dans un collège, et on apprend de cette expérience.
Est-ce que quelque chose vous a spécialement surpris ou plu dans ce collège ?
En arrivant dans le collège, je l'ai trouvé très beau. J'ai beaucoup aimé le hall avec la brique dans l'entrée qui fait très toulousain. Donc je trouve que ça lui donne déjà une identité forte. Puis quand on est dans ce hall et que derrière on voit la cour avec les terrasses et les Pyrénées derrière, je trouvais qu'on était presque dans un collège comme on pourrait être dans une vue en vacances ou à la maison face à la montagne. J'ai trouvé ça apaisant et j'ai trouvé ça plaisant de pouvoir avoir ce contexte-là en arrivant dans l'établissement. Donc moi, c'est ce qui m'a plu tout de suite. Et après, je suis arrivée dans mon bureau et j'ai trouvé que mon bureau était sympathique. Alors du coup, ça m'a plu aussi.
Quels sont les points positifs et négatifs du métier de principal adjoint ?
Le premier point positif, je trouve, c'est dans ma journée, je ne fais jamais la même chose. Un jour ne ressemble pas à un autre et une heure ne ressemblera pas non plus à la suivante. Il y a plein de rebondissements dans la journée, alors il y a du courant à faire, mais après il y a plein de choses qui arrivent au fur et à mesure de la journée et qu'il faut traiter. Après, je trouve qu'un autre point positif, c'est que c'est un métier où on peut s'occuper globalement de l'élève. On peut agir sur tous les facteurs de l'élève à l'école. Et on accompagne aussi les enseignants et on permet à tout le monde d'essayer de passer une journée, une année, la meilleure possible. Le point négatif que je trouve à ce métier, moi ça me dérange pas, mais c'est quand même un point négatif, c'est que c'est un métier qui est chronophage, qui prend énormément de temps. On est beaucoup plus au collège qu'à notre maison. Donc on est très très présent sur l'établissement.
Avez-vous toujours voulu faire ce métier ou vous aviez d'autres envies ?
Alors au départ, je voulais être vétérinaire. Donc c'était pas mon métier de prédilection, mais par contre quand je me suis dirigée vers le métier d'enseignante, je savais que je voulais à terme devenir principale d'un établissement parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais besoin d'avoir cette vision globale de l'élève et pouvoir agir sur tous les paramètres qui concernent l'élève. Et en étant enseignante, on agit sur certains paramètres, mais il y en a d'autres qui ne sont pas à notre portée. Et du coup, je savais que je voudrais faire ce métier.
Ensuite, nous voudrions vous posez des questions plus originales. Avez-vous des animaux de compagnie ?
Oui, j'ai des animaux de compagnie. J'ai un petit chat sauvage que j'ai recueilli, qui s'appelle Uno, parce qu'on jouait au Uno quand on a découvert ce petit chat. Et après, j'ai des chevaux. J'ai plusieurs chevaux, puisque c'est mon sport. Donc voilà, ce que j'ai comme animaux de compagnie.
Comment s'appellent-ils ?
Mes chevaux ?
Oui.
Alors j'ai Fripouille, c'est mon plus petit cheval, puis après j'ai Kamikaze, et après j'ai Hotshot.
Quel est votre livre préféré ?
Alors j'ai beaucoup de livres préférés, mais j'ai surtout des auteurs préférés, donc j'aime beaucoup lire des romans policiers scientifiques, et donc du coup je lis Franck Tillyès et Bernard Minier, qui sont deux amis dans la vie de tous les jours et qui écrivent des livres en plus dans la région toulousaine ou les départements autour. Donc on peut vraiment se repérer dans leurs histoires et suivre le crime et la façon dont ils vont le résoudre.
Aimez-vous voyager ?
J'adore voyager. Si on n'était pas obligé de travailler, je ferais que voyager, parce que découvrir le monde, c'est quand même fantastique. On a des paysages à découvrir, il y a des cultures à découvrir, il y a des populations à découvrir, et on a une richesse incroyable quand on peut aller voir d'autres endroits que la France, mais il y a aussi une richesse incroyable en France, donc on peut très bien aussi voyager en France, ce qui est peut-être plus accessible aussi, parce que quand on travaille, ben des fois les temps de vacances sont courts. Mais j'adore voyager.
Et avez-vous une destination de prédilection ?
Une destination de prédilection, j'en ai pas encore parce que j'ai pas fait encore le tour du monde. Mais je trouve qu'en France, pour l'instant, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc c'est quand même une destination que je favoriserai. Après, il y a une destination que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Et je suis même, je peux dire, presque tombée amoureuse de la ville. C'est Rome, en Italie. Je trouve que c'est une ville qui est chargée d'histoire et incroyable.
Et pour finir, avez-vous une anecdote amusante à nous raconter ?
Oui, j'ai une anecdote amusante. Je me rappellerai toujours mon premier jour où je suis devenue enseignante. Je suis arrivée au lycée Jolimont à Toulouse en tant que professeure de physique chimie. Et j'étais jeune, assez jeune. Et j'avais l'âge d'élèves qui pouvaient être dans ce lycée en BTS. Et au moment où j'arrive devant le lycée pour rentrer, je me suis fait arrêter par ce qu'on appelle un pion, hein, donc un surveillant, qui m'a demandé ma carte étudiant que je n'avais pas, et donc je me suis faite vraiment gronder jusqu'à ce que j'ose montrer mon cartable de prof et qu'ils comprennent que j'étais pas une élève mais une prof. Et bon, il s'est platement excusé, mais c'était avec du recul assez marrant.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Et bien, je vous remercie Gabrielle et Raphaël de cette interview, et je vous souhaite une bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée. Champi Radio.
Merci beaucoup Gabriel et le mois du passé pour cette interview passionnante. Nous changeons maintenant complètement de sujet avec Elena qui souhaite nous partager son expérience sur le meilleur lieu de vacances dans le sud.
On va parler d'un indétrônable lieu de vacances en Occitanie. Nous allons parler de la cité de Carcassonne. Pourquoi Carcassonne s'appelle comme ça ? Dame Carcasse aurait sonné toutes les cloches de la ville pour célébrer la victoire de son plan. Entendant ceci, un soldat carolingien se serait crié « Carcassonne », ce qui vient donner son nom à la cité de Carcassonne. Mais qui est Dame Carcasse ? Dame Carcasse est un personnage légendaire de la ville de Carcassonne. Elle est, selon la légende, la femme de Balak, prince musulman de Carcassonne, qui est tué au combat contre Charlemagne. À la suite du décès de son mari, elle aurait pris en main la défense de la ville face à l'armée franque et l'aurait repoussée. Mais maintenant, je vais vous parler de la cité de Carcassonne. Tout d'abord, j'aimerais parler de l'entrée. Elle est gratuite. Une fois pénétré dans la cité, vous aurez l'impression d'être au Moyen-Âge. Vous pourrez aussi trouver quelques boutiques de bonbons ou de toutes sortes d'autres choses comme des costumes ou des porte-clés et même encore des maniers, des stylos, etc. Mais maintenant, revenons à notre visite. Elle dure environ une heure pour le château et les remparts. Et une heure à deux heures pour faire le reste. Il y a aussi la basilique Saint-Nazaire dans les cités. Pour moi, Carcassonne est incroyable, comme en été, comme en hiver, même pour les grandes familles. Sur ce, je vous dis à la prochaine.
Champi Radio !
Champi Radio !
La radio
du collège Hérosius.
Hé, nous savons maintenant où passer nos vacances. Passons maintenant à une nouvelle recrue dans nos rangs, Nathan, qui va nous parler de sa passion de toujours, les dinosaures.
Merci Raphaël. Pour commencer, un dinosaure est un animal qui vivait sur Terre il y a 66 millions d'années. Mais connaissez-vous le nombre d'espèces ? Il existe plus de 1500 espèces, tous regroupées en plusieurs classes. La plus connue, les cératopsiens, qui portaient trois cornes. Ils atteignaient des records de taille. Par exemple, Spinosaurus, un spinosauridé, était le plus grand carnivore de tous les temps, avec ses 18 à 20 mètres de long. Sinon, on a le dinosaure le plus grand, qui était Amphicoelias, un sauropode, avec ses 60 à 73 mètres de long. Savez-vous qu'ils avaient des régimes différents ? Certes, le Triceratops, un ceratopsien, était herbivore. Le Tyrannosaurus rex, que vous connaissez tous sûrement, était carnivore. Et le Baryonyx, moins connu, un spinosauridé, était piscivore. Mais il pouvait manger autre chose. Les sauropodes étaient herbivores. mais mangeait aussi des cailloux pour broyer les végétaux qu'il mangeait dans leur estomac. L'ankylosaurus, un ankylosauridé, était un herbivore qui mangeait aussi du charbon pour éliminer les bactéries dans son corps. Savez-vous quand vivaient les dinosaures ? À leur époque appelée mésozoïque, qui dura de 252 millions d'années jusqu'à 66 millions d'années, il existait trois périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Au Trias, qui dura de 252 à 201 millions d'années, il faisait chaud et les dinosaures partageaient leur territoire avec d'autres créatures. Ils étaient de petite taille et ne dépassaient pas 10 mètres. Au Jurassique, il y a 201 à 145 millions d'années, le temps était humide et les dinosaures étaient maîtres de la planète. Ils atteignaient de grandes tailles et ne dépassaient pas 30 mètres. Au Crétacé, il y a 145 à 66 millions d'années, les dinosaures étaient toujours les maîtres de la planète. Ils atteignaient des tailles immenses et d'autres des tailles moyennes. En 1815, William Buckland découvre le premier fossile de dinosaure au monde et en 1824, il le nomme Megalosaurus, un allosauridé. En 1842, Richard Owen crée le mot dinosaure, donc après la découverte du mégalosaurus, qui vient du grec dinosauria. En France, le premier fossile de dinosaure est un Compsognathus, un coélurosauridé, découvert en 1870 par Charles Bachelet. Malheureusement, vous le savez tous, les dinosaures sont tous décédés, mais savez-vous vraiment comment ils sont morts ? Au début, les volcans ont explosé partout sur la planète. Ensuite, des nuages de cendres ont obscurci le ciel, bloquant ainsi la lumière du soleil. Après, les plantes ne pouvaient plus faire de photosynthèse et sont donc mortes, ainsi que les dinosaures herbivores et les carnivores ensuite. Pour finir, une météorite est tombée sur la planète et a tué le reste des dinosaures encore vivants. Et merci d'avoir écouté cet article.
Champi Radio,
la radio
du collège Hérosius.
Roarg ! Qui signifie « Merci beaucoup, Nathan », en dinosaure traditionnel. Maintenant, un sujet d'actualité qui nous concerne tous, Maëva et Pauline vont nous parler de la biodiversité.
Bonjour, nous allons vous parler de la biodiversité. On parle souvent de biodiversité, mais c'est quoi ?
C'est la science du vivant. Ce mot a été créé en 1985 par M. Rosen, lors d'une réunion visant une question scientifique. Elle recouvre une partie des sciences, de la nature et de l'histoire.
Aujourd'hui, environ 2 millions d'espèces ont été décrites et le nombre total d'espèces existant sur Terre est estimé à 8,7 millions d'espèces.
On n'en connaît pas beaucoup, dis donc.
Il reste donc de nombreuses espèces à découvrir. Mais actuellement, de nombreux scientifiques considèrent que la Terre est en train de connaître une crise biologique.
Les études de l'évolution de la biodiversité montrent qu'environ 41% des amphibiens, plus d'un quart des mammifères sont menacés d'extinction.
Oula, ça devient urgent de les protéger.
Et ce n'est pas tout. Près de la moitié des récifs coralliens ont disparu ces 30 dernières années. Et un appauvrissement du nombre de populations au sein des espèces est observé. Les populations de plus de 3000 espèces de poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles ont diminué de 60% en seulement 40 ans depuis 1970.
En effet, l'homme apparu récemment dans l'évolution, peuple l'ensemble des continents et a développé des activités nombreuses et variées ayant des conséquences directes et indirectes sur la biodiversité.
Disparition des habitats de nombreuses espèces, utilisation de produits chimiques toxiques pour certaines espèces, fragilisation des écosystèmes, réchauffement planétaire lié à l'augmentation de l'effet de serre dû aux activités humaines,
on fait vraiment rien de bien.
Les disparitions actuelles d'espèces correspondent à une extinction massive qui s'effectue à grande vitesse.
Cette crise biologique illustre les interactions entre les espèces, plus précisément entre l'homme et les autres espèces.
Champi Radio,
la radio
du collège Hérosius.
Merci encore pour ces infos. Mais Maëva ne semble pas vouloir nous lâcher. Gabriel et elle vont donc nous parler des tardigrades, des bêtes hors du commun.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, Maëva et moi, Gabriel, allons vous parler des
tardigrades. Pratiquement personne ne connaît ces petits animaux de la famille des Ecdysozoa, mesurant moins de 1 mm, alors que l'on peut parfois les observer au microscope en cours de SVT.
Il a 8 pattes et a une durée de vie de 1 à 3 ans selon les espèces, dont il existe environ 1340 espèces.
C'est énorme.
Ils peuvent vivre partout, des hautes montagnes enneigées aux fonds marins les plus sombres. Ça dépend des espèces. Ils peuvent faire preuve de cannibalisme, mais ils se nourrissent le plus souvent de petites plantes, de mousses, de lichens et d'algues. Les tardigrades peuvent vivre jusqu'à 30 ans sans nourriture ni eau. Ils ont beau être inconnus, cela ne les gêne pas tellement.
Ils sont capables de résister à des températures extrêmes telles que plus de 340 degrés, mais aussi très basses, comme moins 273 degrés. C'est le zéro absolu.
Ah oui, quand même! Si ce petit animal résiste à ces températures, il n'a pas fini de vous épater. En effet, il est 11 000 fois plus résistant aux rayons X que l'homme, il est insensible aux radiations et il résiste 1000 fois plus à la pression atmosphérique que l'homme.
Mais on est nul par rapport à eux. Ses capacités de survie sont encore mises à l'épreuve. Il survit aussi au manque d'eau et au manque d'oxygène.
Mais on peut pas le tuer en fait.
Mais si, il n'est pas tout le temps invulnérable. Quand il est aussi résistant, c'est parce qu'il est dans un état appelé cryptobiose.
Son organisme fonctionne beaucoup plus lentement.
Sinon, ils peuvent se faire tuer comme tous les autres animaux.
Cet être très résistant n'est pas dangereux. Il est totalement inoffensif. Bonne journée à vous.
Champi Radio.
Brouh, ces choses me font froid dans le dos. Bref, Colline, Pauline et encore Maëva ont interviewé les petits sixièmes pour connaître leurs ressentis au collège.
Première interview.
Bonjour, nous allons te poser des questions sur ta rentrée.
Avais-tu des appréhensions sur la rentrée au collège ?
Oui, j'appréhendais de me perdre dans les couloirs.
Quelle était ta première impression en arrivant devant le collège ?
J'avais hâte.
Et à l'intérieur ?
J'avais un peu peur.
Maintenant, nous allons te poser des questions plus personnelles.
As-tu pris le bus ? Si oui, qu'en as-tu pensé ?
Oui, mais je m'ennuie car je ne connais personne.
T'es-tu bien intégrée ?
Oui.
As-tu de nouveaux amis ?
Oui, une seule.
Participes-tu à une activité au collège ? Si oui, laquelle ?
Oui, la chorale, le lundi et le jeudi, j'adore ça.
Et maintenant, te sens-tu à l'aise ?
Oui, beaucoup mieux qu'au début.
Ce sont les réponses de Amalia, interprétées par Pauline.
Deuxième interview.
Bonjour, nous allons te poser des questions sur ta rentrée.
Avais-tu des appréhensions sur la rentrée au collège ?
Oui, j'avais peur de me perdre dans les couloirs.
Quelle était ta première impression en arrivant devant le collège ?
J'avais hâte.
Et à l'intérieur ?
J'avais peur de ne pas être avec mes copines.
Maintenant, nous allons te poser des questions un peu plus personnelles.
As-tu pris le bus ?
Non, car j'habite très près.
T'es-tu bien intégrée ?
Oui.
As-tu de nouveaux amis ?
Oui, ça va.
Participes-tu à une activité au collège ?
Non.
Et maintenant, te sens-tu à l'aise ?
Oui, beaucoup mieux qu'à la rentrée.
Ce sont les réponses d'une élève de 6e, interprétée par Maëva.
Troisième interview.
Bonjour, nous allons te poser des questions sur ta rentrée.
Avais-tu des appréhensions sur la rentrée au collège ?
Oui, je pensais que les 4e et les 3e allaient être méchants.
Quelle était ta première impression en arrivant devant le collège ?
Je sentais que j'avais passé une étape.
Et à l'intérieur ?
J'avais l'impression que la cour était toute petite.
Maintenant, nous allons te poser des questions plus personnelles.
As-tu pris le bus ?
Oui, le chauffeur est très gentil.
T'es-tu bien intégré ?
Oui.
As-tu de nouveaux amis ?
Oui, beaucoup.
Participes-tu à une activité au collège ?
Oui, la chorale, c'est cool.
Et maintenant, te sens-tu à l'aise ?
Oui, un petit peu.
Ce sont les réponses d'Antoine, interprétées par Colline.
Champi Radio !
Champi Radio !
La radio
du collège Hérosius.
Ah là là, ça me fait penser à moi quand j'étais en 6e, fougueux, libre comme l'air. Trêve de nostalgie, et je ne parle pas de la radio. Pour finir en beauté, je vais vous parler des coulisses du collège. Me revoilà. Ah, encore une année de passé. Le retour de la routine. Lever, manger, travailler, rentrer, travailler, doucher, manger, coucher. Que c'est répétitif. C'est pour ça qu'on est là. Voilà de quoi égayer votre journée. Alors, par où commencer ? Bon, je sais que je le répète à chaque fois. Mais parlons du nombre incalculable d'activités dans le collège. La chorale, la web radio, la fresque du climat, le potager, ma petite planète, les échos délégués, la LAC, et j'en passe. Avec tout ça, on s'ennuie pas, je vous le dis d'expérience. J'y pense, au moment où l'émission sort, on doit être très proche des conseils de classe, s'ils ne sont pas déjà passés. Certains ont hâte de recevoir leur bulletin, d'autres n'ont vraiment pas hâte. On se demande pourquoi. En ce qui concerne l'équipe de la Web Radio, nous accueillons plein de nouveaux membres cette année, comme Laureline, Héloïse, Anouk, Nathan, Pauline, donc et du coup le fameux duo, mais aussi Madame Tosetto. En ce qui concerne les anciens membres, beaucoup ont quitté le navire dans nos cœurs. Mais le reste de l'équipe est là. Gabriel est toujours aussi agréable. J'allais dire agréable, pas besoin de me regarder comme ça. Léon continue ses articles d'espionnage. Le groupe de musique continue de nous empêcher de travailler. Maëva Bah, c'est Maëva, hein. Et moi, je suis toujours le souffre-douleur, on ne change pas les bonnes habitudes. Quant à Monsieur Bru, je ne sais toujours pas comment il fait pour nous supporter. Surtout Gabriel. Ah, ce regard veut dire que c'est surtout moi qui l'a du mal à supporter. Bon, tout ça pour dire qu'on a plein de projets pour la web radio et que c'est grâce à vous qu'on peut les mettre en œuvre. Assez parlé de nous, j'espère que votre année se passe bien, élève comme professeur, que vous ayez trouvé l'équilibre entre travail et repos. Je suis sérieux, vous croyez que je ne vous vois pas, ceux qui jouent aux jeux vidéo toute la journée? Ah, ce regard de l'équipe signifie que je m'éternise et qu'ils n'ont pas que ça à faire de m'entendre monologuer. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Jingle! J'ai toujours rêvé de dire ça.
Chambi Radio,
la radio
du collège Hérosius.
Merci à moi pour cette magnifique chronique. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a pu préparer cette émission en un temps record. La mauvaise, c'est que c'est déjà la fin de cette émission. Je remercie donc Ethan à la technique.
Mais aussi Raphaël à l'animation.
Je remercie donc toute l'équipe des chroniqueurs, Monsieur Bru, Madame Tosetto. Sur ce, n'hésitez pas à revenir nous écouter. Passez une bonne journée.
3, 2, 1...
Champi Radio.
Champi Radio.
La radio
du collège Hérosius.